Radio Okapi.
À la présentation du journal, Yevin Gwinga.
Okapi.
Bonjour et merci de votre fidélité. Joseph Kabila plaide pour un partenariat de progrès entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le chef de l'État congolais s'est exprimé hier à l'ouverture de la 20e session de l'Assemblée parlementaire paritaire. Procès Floribert Chebeya, nouveau sur le devant de la scène aujourd'hui avec la deuxième audience. Elle va se dérouler dans la cour du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala et Kinshasa. Au programme, l'avancement des procédures préliminaires. Nous dirons aussi un mot de l'opération de révision du fichier électoral qui tourne au ralenti mais se poursuit quand même au Maniema. À la base, quelques problèmes techniques. 20e session de l'Assemblée parlementaire paritaire à Kinshasa, Joseph Kabila, pour un partenariat de progrès entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En tout cas, le chef de l'État congolais l'a déclaré hier à l'ouverture de cette session. La RDC espère que ces assises vont progresser le dossier des accords de partenariat économique entre les deux parties. Le président de la République a aussi évoqué les efforts déployés par son pays dans le secteur économique, notamment la stabilité du cadre macroéconomique. Écoutez Joseph Kabila dans ses propos recueillis par Julien Nyamouigny.
Sur le plan économique, à force de sacrifices de travail, le peuple congolais a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique, à relancer la croissance et à engager un programme d'investissement public structurant sans précédent. Ainsi, au cours de cette dernière décennie, la croissance économique a été en moyenne de plus ou moins 6%. Après avoir été négative pendant de longues années. L'inflation est passée de 4 à un chiffre. Plusieurs indicateurs de développement humain ont connu une sensible amélioration et plus de kilomètres de routes ont été réhabilités, voire construites qu'au cours des 30 années précédentes.
Justice avec la deuxième audience ce vendredi du procès Floribert Chebeya dans la cour du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala ici à Kinshasa. Une audience qui en principe doit faire avancer les procédures préliminaires et intégrer les derniers rebondissements sur la question. Rappelons que la première audience du 12 novembre dernier à la cour militaire avait permis d'identifier toutes les personnes concernées dans cette affaire parmi lesquelles 5 accusés et 2 témoins. Le point avant l'audience de ce vendredi avec Donna Madimba.
Ce vendredi encore, il sera question d'atteindre le même objectif que lors de la première audience, c'est-à-dire faire la lumière sur l'assassinat de Floribert Chebeya et la disparition de Fidel Bazana. Le 12 novembre dernier, le tribunal avait tenu la première audience de ce procès et avait identifié tous les impliqués présents à cette audience. Ce fut le cas de Daniel Mukala et Georges Kutungwa, François Ngoy, Michel Mouila et Blaise Mandiangou, identifiés tous comme prévenus, mais aussi John Numbi et Jean Dédieu Oleko, identifiés eux comme témoins, avaient répondu absents à cette première audience, Paul Mwilambo et Christian Ngoy, mais aussi Jacques Mugabo, les 3 autres accusés dans cette affaire. Des problèmes logistiques avaient été signalés lors de ce premier jour de procès et à cause notamment de l'étroitesse de la salle où se tenait l'audience. L'opinion s'attend donc à ce que les préliminaires soient tous vite évacués afin d'entamer le vif du sujet. Mais entre l'audience du 12 novembre dernier et celle de ce vendredi, des rebondissements hors procès ont eu lieu. C'est notamment les réactions de l'épouse de Floribert Chebeya et la voix des 100 voix ONG que le défunt a dirigé. Ils exigent avec insistance que le général John Numbi, qui avait invité Floribert Chebeya à son bureau la veille de sa mort, soit inculpé comme accusé et non pas présenté en témoin, comme c'est le cas jusqu'à présent.
Un officier FRDC ajouté à la liste onusienne des personnes ne devant plus voyager ou dont on gèle les avoirs. Il s'agit du lieutenant-colonel et actuel commandant de la 231e brigade FRDC basée dans le Massissi au Nord Kivu, Zimurinda Innocent. C'est l'une des 4 personnes ajoutées hier par le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la RDC. Les 3 autres sont des rebelles rwandais. Celui-ci est accusé de nombreuses violations des droits humains et notamment de recrutement d'enfants. Madame Judith Lavoie, qui est chef de la section protection de l'enfant de la MONUSCO à Kinshasa, revient ici sur le cas Zimurinda.
Bon, nous, on a de la documentation, on a des précisions, on a des preuves que des enfants ont été recrutés sous l'ordre ou directement par Zimurinda et qu'il y a eu des systèmes mis en place pour recruter et faire des listes d'enfants qui avaient été associés anciennement dans d'autres groupes armés et ils sont intéressés à voir la liste de ces enfants probablement parce que ces enfants-là ont déjà la capacité Ils ont acquis les habiletés de groupe armé, donc ils n'ont même pas besoin de les former. Ils sont déjà prêts, donc ils peuvent les obliger à joindre un groupe armé et éventuellement une rébellion ou contribuer aux objectifs qu'ils ont de régler les problèmes avec les armes. Parce qu'on ne recrute pas les enfants pour leur dire « venez à l'école, venez, on va vous aider à vous développer ». Non, non, on les recrute pour joindre une faction armée.
Parmi les anciens noms sur la liste figurent ceux déjà bien connus comme Laurent Kunda, Bosco Ntaganda, Germain Katanga ou Thomas Lubanga qui, eux, sont sur cette liste depuis 2004. L'opération de révision du fichier électoral connaît plusieurs embûches dans la province du Maniema. La CEI déplore des pannes sur les panneaux solaires ou encore des chutes de tension du courant électrique qui brûlent les matériels dans les centres d'inscription. La participation reste, elle aussi, faible. Environ 60 000 enrôlés seulement sur les 2 millions d'habitants depuis le lancement des opérations de révision du fichier électoral. Un bilan partiel qui inquiète et mobilise les autorités provinciales. Le gouverneur de province, Pascal Toutou Salumou, a rassemblé hier plus d'une centaine de responsables politico-administratifs en vue de les mobiliser. Pascal Toutou Salumou est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Jusque-là, on est à 63 000, 64 000 enrôlés. 10 jours après le début de l'opération, c'est trop faible. C'est pour cela que nous devons conjuguer des efforts, mobiliser l'administration publique, mobiliser tous les acteurs sociaux. Et donc, nous devons tous nous enrôler parce que nous devons donner à la province du Maniema le poids politique nécessaire pour lui permettre de peser sur l'échiquier national. Parce qu'en politique, le poids pèse. Voilà pourquoi nous devons réfléchir par deux fois et donner toutes les chances à la province du Maniema d'avoir un poids politique sur l'échiquier national. Mais si par mégarde et par malheur, le nombre d'enrôlés baissait au Maniema, le coefficient électoral va changer. Moi-même, je viens de m'adresser à travers les responsables qui étaient là à toute la population de la province. Et j'irai, moi-même et le vice-gouverneur, chacun en ce qui nous concerne, à la rencontre de cette population du Maniema profond, dans les tout prochains jours.
Province orientale cette fois, la société civile du territoire de Dungu, à plus de 700 km au nord-est de Kisangani, se dit inquiète d'un probable afflux de réfugiés soudanais à Dungu et du déplacement massif des populations du nord vers le centre. Cette crainte fait suite à l'analyse le week-end dernier des conséquences du référendum au Sud-Soudan, post-frontalier avec le territoire de Dungu, mais aussi à l'identification par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR des anciens sites ayant servi à l'hébergement des réfugiés soudanais en 1998. Le président de la société civile de Dungu, Aaron Sambia, est joint au téléphone par André Kitenge.
Nous craignons d'abord cette conséquence du référendum du Sud-Soudan, dans le sens que ça peut créer une prolifération des armes ici chez nous par la présence de ces réfugiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous craignons le non-respect des statuts des réfugiés par ces réfugiés-là eux-mêmes. De trois, nous revendiquons aussi le pillage que les réfugiés soudanais, les mêmes réfugiés soudanais avaient fait à l'année 98 qui n'a pas été réparé jusqu'aujourd'hui. De quatre, nous craignons aussi le braconnage des ressources naturelles de notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu que la haute hiérarchie puisse prendre des dispositions plus rapidement possible afin que de localiser pour le respect en collaboration avec la base et de voir la situation des personnes qui sont à la frontière.
Contactée, la chargée des relations extérieures et information publique du HCR n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Une campagne de vaccination est prévue dans le Bandundu et dans les zones frontalières avec le Congo-Brazzaville pour lutter contre la polio flasque aiguë. Kinshasa n'est pas à l'abri de l'épidémie qui sévit au Congo voisin. Déclaration ce jeudi à Brazzaville de Gianfranco Rotigliano, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, qui vient de visiter les hôpitaux de Pointe-Noire où on compte déjà 172 morts. Le point avec Arsène Séverin.
Après avoir confirmé le cas venu de Pointe-Noire et décédé cette semaine à Kinshasa, Gianfranco Rotigliano a annoncé l'existence d'un autre cas dans le Bandundu. Il faut que les collègues de l'OMS le confirment, a-t-il dit avec précaution. Le directeur régional de l'UNICEF a annoncé à cet effet une campagne de vaccination dans le Bandundu et dans les zones frontalières avec le Congo-Brazzaville. Sans préciser des dates, il a dit que ces vaccinations devaient avoir lieu très rapidement et que l'UNICEF était très impliqué, a-t-il ajouté, avant de quitter Brazzaville pour Kinshasa. Gianfranco Rotigliano s'est rendu mercredi dernier à Pointe-Noire pour visiter les foyers de cette épidémie qui a déjà fait 200 morts au Congo-Brazzaville, dont 172 à Pointe-Noire. Un deuxième passage de la vaccination anti-polio est prévu ce vendredi dans la capitale économique et environ. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Capi.
Toujours à l'étranger, sachez que la situation politique reste toujours confuse et incertaine en Côte d'Ivoire. La victoire annoncée du candidat Alassane Ouattara par la CEI est contestée par le Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante a en effet dévoilé les résultats provisoires du second tour de la présidentielle ivoirienne hier, jeudi, donnant la victoire à Alassane Ouattara, selon elle, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie l'emporte avec 54,1% des suffrages. Son adversaire, le président sortant Laurent Gbagbo, recueille 45,9% des voix selon les décomptes de la CEI. Mais hier soir, le Conseil constitutionnel a constaté l'expiration du délai de 3 jours imparti à la CEI pour proclamer les résultats. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.